La paracha Shemot commence par une liste de noms. Vélé, Shemot, etc. Bon, bien entendu, on peut considérer que c'est à peu près anodin, que ça n'a pas trop d'importance, et que, bon, ben, on nous indique qui sont les Juifs qui sont descendus, les Hébreux qui sont descendus en Égypte. Pourtant, la tradition nous invite à regarder ce détail comme une clé de lecture essentielle. Nous ne parlons pas seulement de l'exil et de la souffrance, mais de ce qui permet au peuple juif de tenir, de rester lui-même et finalement de sortir d'exil et de sortir d'Égypte. Donc dans cette introduction, j'aimerais montrer comment les noms, ces noms-là, révèlent une manière proprement juive de comprendre l'histoire. Une manière qui met l'accent sur l'identité, sur la fidélité à nos racines et sur les forces spirituelles qui ont permis à nos ancêtres de traverser tout l'esclavage sans se dissoudre. Je ne parle même pas des 2000 ans d'exil ultérieur. Je parle uniquement de cette période de Mitzrayim. Nous verrons aussi que ces enjeux ne sont pas seulement des enjeux anciens. Ils nous parlent d'aujourd'hui, dans notre rapport à la langue hébraïque, aux traditions hébraïques, aux noms de famille, aux valeurs familiales. En somme, cette paracha nous rappelle que l'exil peut toucher l'extérieur, mais jamais l'essence du juif. Et c'est cette idée que nous allons explorer ensemble à présent. La paracha qui commence va relater la naissance de Moshe, fils de Amram, qui est lui-même fils de Kehat. On est dans la tribu de Lévi. Cet enfant a été adopté et élevé comme un prince égyptien par la fille de Pharaon. Il a fini par prendre conscience de son identité, il a compris qu'il appartenait à ce peuple opprimé, et Dieu lui a confié la mission de sauver son peuple opprimé. La paracha se termine avec la promesse divine, Pharaon sera contraint de laisser partir les Hébreux de son pays. Voilà donc pour simplement une introduction, pour poser le plan en quelque sorte, hein, mais aussi le contexte. Ve'ele Shemot b'nei Israël, Habaim Mitzrayima, Et Yaakov, Ish, Uveto, Baou. Voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte. On peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi parler de noms au début du livre qui relate une période fondatrice pour le peuple hébreu? Esclavage, puis déjà exil, puis esclavage, puis sortie d'Égypte. Et là, on introduit tout ça avec quelques noms. Alors, d'ailleurs, ici, on doit remarquer une chose. Que font les traducteurs de la Bible, de traducteurs goyim notamment? Eh bien, ils appellent le livre de Shemot, ils l'appellent Exode. Nous, on appelle ce livre Shemot. L'approche non juive de l'histoire du peuple d'Israël se révèle à cette occasion. Notre tradition insiste non pas sur l'épreuve qui est l'Exode, mais sur sa solution, les noms, qui ont été un des remèdes à l'exil. Si les noms sont mis ainsi en avant, c'est que dans la destinée du peuple juif, Hachem prépare toujours le remède avant le problème. Bien sûr, quand on est pris dans l'action, on ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand, Dieu préserve, il y a un gros problème, mais il faut savoir que Hachem prépare toujours le remède avant. Eh bien, ici, la mention des noms fait allusion au fait que la conservation des noms sera un des motifs de la libération. La Géoula de l'exil de Mitzrayim a été due à la conservation des noms. Ils n'ont pas pris des noms égyptiens, ils ont continué à s'appeler de noms hébraïques. Deuxième raison, la conservation de la langue hébraïque. Donc, ils ne se sont pas mis à se parler entre eux en égyptien. Et à la conservation du vêtement hébraïque. La Guémara indique. Rava a dit, ce n'est qu'après que le Saint béni soit-il ait créé le remède au fléau qu'il a envoyé le fléau. Car Resh Lakish, un autre grand maître de la Guémara, a dit: Le Saint béni soit-il ne frappe pas Israël, à moins de lui avoir créé au préalable le remède. Aussi, pour la tradition biblique, rabbinique, hein, je parle de la tradition juive, ce livre ne s'appelle absolument pas l'Exode. Il s'appelle Non, Shemot. Prenons la mesure de ces subtilités. Subtilité de traduction, si l'on veut. S'il survenait, Dieu préserve, une grande fièvre, eh ben, les uns appelleraient cette période fièvre. Les traducteurs non juifs appelleraient cette période fièvre, alors que les Massorètes auraient choisi plutôt aspirine ou paracétamol. Vous voyez la différence? C'est un nom que l'on donne à une période, mais un nom, ben, constate, oui, il se passe ça, et c'est bien embêtant. C'est l'épreuve. Et nous, on voit comment sortir de cette épreuve. On touche là à un problème général, celui de la vision non-juive dans le vocabulaire. On y reviendra à l'occasion dans les parachas suivantes, si Dieu nous le permet. Donnons une idée de ce sujet avec la notion de sacrifice. Le mot sacrifice, on en entend beaucoup parler dans la Bible, eh bien, dans les traductions, mais le mot sacrifice est censé traduire le mot hébraïque korban. Or, korban ne veut pas dire sacrifice, il veut dire, enfin oui, aujourd'hui il signifie ce que l'on entend normalement par sacrifice, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte un animal, par exemple, hein, ou une poignée de farine au temple. Mais korban n'indique pas une perte, parce que là on perd un animal, on va donner un animal, ou on va perdre une poignée de farine, on va perdre de l'huile, etc. Mais Corban indique une proximité. Karov, c'est proche. Donc, le terme, de même, prenons encore un autre exemple, le terme exégèse. Quand on étudie la Torah, on parle d'exégèse. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, exégèse? Ça veut dire, on a compris, hein, ça veut dire commenter les versets de la Torah, celui qui commente la Torah, qui transmet l'enseignement de la Torah, on va l'appeler un exégète. Mais ce mot, là encore, est piégé. Ce n'est pas un mot juif. La racine du mot midrash renvoie à la recherche, d'oresh, c'est la recherche de sens par l'interrogation du texte. Donc, quand on commente la Torah, on interroge le texte avec les outils, bien entendu, de la Torah orale et de nos traditions, et on comprend ce que dit une partie au moins de ce que dit ce texte. Mais le mot renvoie à une explication. Ça veut dire du grec exégésis, qui veut dire explication. Donc, on est en face d'une vision du texte qui explique qu'il y a ceci, il y a cela dans ce texte. C'est pas la démarche juive. La démarche juive, c'est le midrash. On va interroger le texte, on se pose des questions sur ce texte. On dit, tiens, c'est bizarre qu'on dise ceci ou cela, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va chercher d'abord soi-même, et après on va voir ce que disent les commentateurs. C'est une démarche d'interrogation du texte et d'appel aux mépharshim, pas aux exégètes, aux mépharshim, ceux qui vont transmettre le sens conformément à la traduction. Voilà, donc nous voyons ici que ce mot non qui apparaît au début, déjà, il nous donne tout un enseignement sur la manière juive de parler, de comprendre. Et en même temps, ce mot non n'est pas fortuit. Déjà, avant la descente en Égypte, la Torah avait rappelé aux enfants d'Israël l'extrême importance de leur nom. Et moi-même, j'ai appris de mon maître, Rabbi Yitzhak Erlmazer, au nom qui lui-même citait ses études son étude ou sa lecture de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev dans le Sefer Kedushat Lévi, qu'une même leçon est tirée des mots que l'on trouve auparavant dans l'histoire de Yosef. Yosef a été loué parce qu'il n'a pas changé de nom. Vous voyez, donc on voit l'importance du nom déjà auparavant. Le titre Shemot attire notre attention sur l'importance du maintien des noms originaux, notamment lorsque les Juifs vivent au milieu de nations étrangères. Au milieu individuel, le nom donné par un père à son fils correspond, ou à sa fille, correspond à celui donné par le Créateur à son âme dans les sphères supérieures. Donc on voit que ce n'est pas anodin et on dit que quand il y a un nom qui est formulé pour être le nom d'un enfant, eh bien on ne fait pas que choisir sur un catalogue le nom qui est le plus sympathique. Il y a des sens profonds à tout cela. Pendant l'exil en Égypte, les enfants d'Israël ont eu le mérite de conserver leur nom de famille envers et contre tout. Une famille est entrée en Égypte, une nation en est ressortie, parce qu'ils ont su conserver leur identité. La conservation des noms fait donc partie de la conservation du patrimoine religieux, moral, identitaire du peuple juif. On peut donc regretter les transcriptions approximatives des noms séfarades et orientaux lors de l'immigration des Juifs d'Orient en Israël dans les années 50 et 60. Bakish, j'ai des parents qui ont été transcrits avec un samar, alors que c'est un chine. Dans les manuscrits hébraïques du XVIe siècle, on voit le nom de Rabbi Ishaï Bakish, Sechon Tzadik Livracha, c'est un chine, c'est pas un samar. Quand on voit les contrats du Moyen-Âge où apparaît ce nom dans l'histoire familiale, eh bien, le nom porte Bakis, effectivement, mais c'est parce que c'est une, en lettres latines, bien sûr, hein, parce que c'est une transcription conforme à la langue hispanique, à la langue castillane, qui n'avait pas le son che. Donc il ne pouvait pas dire Bakish, il ne pouvait transcrire que Bakis, Bakuis, dans les documents de l'époque. Voilà, donc on voit que cette grande force qu'ont eu les Hébreux à conserver leur nom, c'était pour les employés de l'état civil de l'État d'Israël des années 50 et 60, et même encore, hein, maintenant, ils n'ont pas connaissance de ce que sont les noms, et c'est déplorable. J'ai dû, par exemple, moi-même, en arrivant ici, bien préciser, attention, ce nom porte un chine, alors qu'ils voulaient mettre un samar, parce que phonétiquement, c'est un samar, c'est un S. Bien. Pendant l'exil en Égypte, les Hébreux avaient donc conservé, outre leur nom, une solidarité fraternelle, le choix de conjoints dans leur peuple, le sentiment familial, la fondation de familles nombreuses. Ces mérites jouèrent un rôle important et à terre, c'est-à-dire rendre plus rapide la sortie d'Égypte. À ce propos, je me rappelle maintenant d'une dracha que j'ai entendue il y a une vingtaine d'années de Rav Eliaou, mon fils, où il expliquait au nom de son maître, Rabbi Yosef Ben Tata, qu'à notre époque, il n'est pas toujours évident de conserver ce que les Hébreux avaient su préserver pendant l'esclavage. Les noms de famille sont souvent modifiés afin de permettre une meilleure intégration dans la société environnante. En Amérique, en France, en Europe, en général, mais même en Israël, on vient de le voir, les noms sont plus ou moins trafiqués. La langue hébraïque moderne ou biblique est inconnue, il faut bien le dire, de la majorité du peuple juif. Une remarque personnelle, si vous le permettez, la lecture des psaumes, ou même celle de la prière collective par un chaliar tzibour. Trop souvent, ces lectures utilisent des prononciations grammaticalement fautives. Un exemple, j'ai entendu un rabbin faisant une cérémonie dans un cimetière lire les psaumes, et en lisant les psaumes, il a dit Lamdéni. Lamdéni, mais quoi, c'est pas ça. Il y a Lamed, il y a Mem, mais Mem porte un dagesh, et le dagesh impose de prononcer le E, le Sheva Na, c'est-à-dire le Sheva qui se prononce, parce que le Sheva peut être Nar, c'est-à-dire silencieux. On prononce le son de la consonne sans voyelle. Mais là, on a la consonne qui porte le point intérieur de la lettre, qui veut dire prononcer le Sheva. Donc on doit dire, si l'on veut faire une lecture correcte au niveau grammatical, dire Lamedeni. De la même dans la langue hébraïque, on sait que quand il y a un Sheva en début de mot, ce Sheva est nar, il se prononce. Eh bien, combien de fois, surtout dans l'hébreu moderne, ce Sheva est complètement escamoté et on entend la consonne tout seul. Certes, ça fait parler plus vite, c'est peut-être plus confortable, mais c'est faux grammaticalement. Donc, on touche là au problème que la langue hébraïque elle-même, eh bien, on n'est pas en train de la conserver exactement. Au sujet des habits, malheureusement, rares sont les juifs, hommes ou femmes, qui se soucie de l'interdiction rabbinique du mélange du chatnez, c'est-à-dire le mélange lin-laine. Des hommes ne portent pas de tzitzit visible ou non, parce que la tradition séfarade, c'est ne pas avoir des tzitzit dehors. On a les tzitzit à l'intérieur de l'habit, donc il n'est pas visible. Mais aujourd'hui, la tradition a évolué, puisque on peut pas imaginer un jeune étudiant en yeshiva avec des tzitzit non visibles. Donc, mais visible ou non, les talit katan, c'est-à-dire ceux qui se portent sous la chemise, bien des hommes, notamment laïcs ou bien vivant en Gola, eh bien tout simplement considèrent que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. On met le talit quand on va à la prière du samedi à la synagogue ou à Kippour à la synagogue. On voit que c'est l'oubli d'un habit traditionnel. Et de plus, bien des femmes mariées ne jugent pas très utile de couvrir leurs cheveux, même lors de cérémonies religieuses. Et je me souviens d'une histoire d'un très grand rave égyptien qui devait officier un mariage, qui a refusé parce que devant lui, une dame avait ses cheveux bien étalés, etc. Il a dit: désolé, c'est pas tzniout, il est interdit, je ne peux pas procéder à ce mariage. On lui a expliqué: mais voyons, voyons, attention, c'est une femme très importante, c'est la femme de un tel, c'est un des richards du pays, on peut absolument pas faire ça. Désolé, je ne fais pas. Jusqu'à ce que, pour faire court hein, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, cette femme qui s'est entêtée à refuser, etc., ben, elle a fini par être prise d'évanouissement, elle a été évacuée parce que le rave était quelqu'un qui était capable d'arriver à un résultat, même si la dame ne voulait pas. Donc elle a évacué, le mariage a été effectué selon la tradition. Aujourd'hui, il faut voir aussi que les lois de pureté familiale sont largement délaissées et il faut le dire que certains exégèses de la Paracha Noire contiennent un premier avertissement biblique contre les mariages mixtes. Ça rappelle d'ailleurs un épisode biblique très largement mal compris. Certains fantaisistes y voient même des extraterrestres prenant pour femmes des terriennes. Puisqu'on nous dit que lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, les béné Elohim, c'est-à-dire les fils de la race divine, selon une traduction un peu rapide, hein, trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. On trouve ça dans le chapitre 6 de Béréchit. Selon certains commentateurs, Mefarshim, c'est-à-dire ceux qui commentent selon la tradition, bien ce verset contient le premier avertissement biblique contre les mariages mixtes, c'est ce qu'enseigne Ibn Ezra et ce qui est transmis par le Rav Manque. Les fils d'Élohim dont parle la Torah ne sont en fait que les descendants de Seth, nés après la Teshuvah d'Adam, 130 ans après la faute, et tout comme Adam, comme le premier homme, ce fils de Adam est né sans prépuce. Et c'est ce que signifie d'ailleurs le mot. Bon, enfin, je passe un peu parce qu'on n'en finirait plus. À l'origine, l'homme fut créé et devait être créé sans prépuce, d'où l'ordre de la Torah, rappelant qu'il convient de procéder à son ablation, comme nous l'explique Rabbi Ben Attar. On parle de circoncision. Donc, il y a eu seulement 13 justes qui sont nés ainsi: Adam, son fils Seth, Noé, Shem, Yaakov, Yosef, Moshe, Iov, Shmuel, David, Irmeyahou. Et selon certaines opinions, ça aurait été aussi le cas de Bilham, le prophète non-juif. Grâce à cette caractéristique, il pouvait mal, mais il pouvait quand même percevoir plus ou moins la Shekhinah. Bien, évidemment, ces prédispositions naturelles au respect de la loi ne suffisent pas. Seth est né sans prépuce, mais ses descendants, pour agir convenablement, ont procédé à la circoncision. Mais en réalité, comme ils se sont unis à des femmes de belle apparence, comme on l'explique ici, donc ce n'est pas du tout des extraterrestres, hein, on parle des enfants, des descendants de Seth, eh bien, ils ont, à cause de ces mariages-là, des descendants qui ont perdu leur potentiel spirituel et ils sont descendus au niveau des descendants de Caïn, perdant toute capacité à éduquer leurs enfants dignement. C'est pourquoi ils furent concernés par la sentence relative au déluge. À part Noé et sa famille, il y a eu donc le déluge et on sait que l'humanité à redémarrer avec Noé et sa famille. Ainsi, pour revenir à la période difficile actuelle, avec le large oubli de la langue, du vêtement et la grande proportion d'assimilation, on peut considérer que on a très largement dépassé le 49e degré d'impureté où était tombé le peuple en Égypte. Il a été libéré à la dernière possibilité, pratiquement, juste avant d'arriver à ce 50e degré qui est particulièrement difficile pour en sortir, pratiquement peut-être impossible. Mais en tout cas, de nos jours, pourquoi tient-on, alors qu'on l'a peut-être dépassé ce niveau, puisqu'on l'a vu, la langue n'est pas respectée, l'habit n'est pas respecté, etc. Eh bien, probablement grâce au mérite découlant au don de la Torah et à l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, avec votre assiduité, etc., on apporte énormément. Nos chachamim expliquent que l'étude de la Torah a un sens et une importance tout à fait considérable. Deux sages-femmes ont été nommées par Pharaon pour s'occuper des enfants juifs. Mais en fait, lorsqu'il a pris le décret de la mort des nouveau-nés, grâce à ces sages-femmes, faire en sorte que les enfants mâles ne vivent pas, plus de garçons. Après cela, eh bien, le père de Moshe avait pensé divorcer de sa femme pour ne pas risquer de donner naissance à un garçon voué à la mort. Mais sa fille Myriam a réussi à le faire changer d'avis. Elle a fait valoir trois arguments. Pharaon a condamné à mort les garçons, mais le père, Amram, condamnait en fait aussi les filles à ne pas naître. C'était donc une mauvaise décision. Pharaon retirait aux garçons leur vie sur terre, mais ils pourraient, même s'ils étaient assassinés par Pharaon, bénéficier du monde futur. La décision d'Amram aurait retiré à ces garçons-là le monde futur. Troisième contestation, troisième argument, le décret de Pharaon pouvait être modifié, car il pourrait très bien y avoir un autre roi, ou bien un homme peut changer d'avis. Donc pourquoi Amram agirait-il aussi fortement contre tous les garçons? Eh bien, Amram a suivi la vie de sa fille. Et c'est ainsi que Moshe a pu naître. Ces deux sages-femmes, c'était Jochebed et Myriam, qui étaient respectivement mère et sœur de Moshe Rabbeinu. Et le roi, on est dans la prolongation du sujet des noms, le pharaon a renommé ces deux femmes juives. Il leur a donné des noms égyptiens. Jochebed, il l'a nommée Shifra, et Myriam, il l'a nommée Pura. Et Rashi précise que ces noms leur étaient attribués par suite de leur comportement. Elles savaient préparer les enfants de manière à ce qu'ils soient beaux et les calmer en leur parlant. Donc, c'était des noms décrivant leur comportement. De plus, le Pharaon savait qu'elle ne pourrait pas se soumettre à sa volonté criminelle tant qu'elle porterait des noms hébreux, car le nom influence sur une personne et donc il leur a donné nom égyptien, persuadé que cela entraînerait un tournant dans leur caractère et dans leur comportement et qu'elles deviendraient des jouets entre ses mains. Pharaon, il avait déjà fait ça pour Yosef, puisque il avait tenté de... Mais ça n'avait pas marché, évidemment. Le nom ne traduit qu'un potentiel, mais pas une prédestination. Donc bien sûr, quel que soit le nom, on peut dominer la chose. Bon, la lecture chassidique de ce sujet renvoie à l'essence de la personnalité. Les noms des enfants d'Israël sont mentionnés dans ce livre, mais ce n'est pas une convention, ce n'est pas une étiquette sur une bouteille, ce n'est pas un nom sur une personne, c'est beaucoup plus que tout cela, ce n'est pas un descriptif. Lorsqu'un juif est en exil, seul un aspect extérieur de son être est touché, c'est-à-dire son nom, mais pas lui. Pas lui. Même en galoute, même au fond de la galoute, l'essence de son être n'est pas touchée. Quelle que soit la noirceur de la nuit dans l'exil, et certaines périodes ont été tout à fait effroyables, eh bien, le juif conserve en lui une étincelle de foi qui est l'essence de son être. Il reste fondamentalement attaché à son créateur. Voilà, disons, l'essentiel à ce sujet. On peut ajouter aussi la dimension sode, en quelque sorte, du nom. Nos maîtres, les Mekoubalim en tout cas, disent que le livre de Shemot commence par voici les noms, parce qu'il ne parle pas des personnes physiques qui descendent en Égypte, mais à leur nom. Chaque nom renvoie à une étincelle divine, renvoie aussi à la descente de l'âme dans le corps. On a, disons symboliquement, c'est l'exil, c'est une migration d'un peuple vers un autre pays, mais c'est aussi, d'une manière allégorique, la descente de l'âme dans la matière, dans un corps de matière. Et l'Égypte, justement, Mitzrayim, représente la restriction, Metzar, l'étroitesse de conscience, la chute dans la matière. Et au contraire, les 12 fils sont des canaux de flux divin qui va, en quelque sorte, être appelé à la Géoula. Le Zohar insiste, d'après les commentateurs que j'ai lus, chacun avec sa maison, ce qui signifie chacun avec sa configuration intérieure, son archétype, son canal spirituel. Jacob, c'est l'âme centrale, l'identité profonde, les fils, c'est les facultés de l'âme, et quand on parle de maison, c'est en quelque sorte les midot, les tendances, etc. Donc la descente en Égypte, c'est la descente de l'âme dans, on pourrait dire, dans la psyché humaine. Et pourquoi répéter ces noms que l'on connaît déjà, on les a entendus dans Bereshit? Parce que chaque descente est en même temps une renaissance. Ces noms sont répétés pour dire que l'on va vers un nouveau cycle, vers une nouvelle mission, vers une nouvelle épreuve, vers une nouvelle réparation. Et Ari HaKadosh explique, chaque âme qui descend dans un exil reçoit un nom nouveau. On a 70 âmes, c'est celui du nombre des nations, c'est le nombre des langues, c'est le nombre des facettes de la Torah, c'est le nombre des niveaux de l'âme, c'est le niveau, en quelque sorte, le niveau des forces du mal à briser. On a toutes ces petites allusions que l'on a quand on nous dit que ceux qui sont descendus en Égypte, eh bien, sont 70. C'est en quelque sorte la totalité de l'âme d'Israël, la totalité des forces humaines et des étincelles à réparer.